Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Nous rejoignons l'Océanie aujourd'hui. Bonjour Franck.
Bonjour Ombline, bonjour à tous. Non seulement l'Océanie, mais la Polynésie, puisqu'à l'occasion de l'exposition du musée du Quai Branly, dont le directeur est avec nous, le président Stéphane Martin, je vous propose aujourd'hui de suivre les pas de Gauguin jusqu'aux îles Marquises. Et vous savez qu'il n'y aura pas de retour aux origines, puisque cette semaine, nous jouons au football.
Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Des vallées à la végétation luxuriante au milieu d'îles volcaniques, des chevaux sauvages qui galopent sur les falaises, des arbres, des fruits bigarrés, des parfums de frangipanier et d'huile de coco, des plages de sable noir, mais aussi une humidité, une chaleur constante, des poissons, des mammifères marins à profusion. Ce paysage édénique est celui des îles Marquises en Polynésie française, dans le Pacifique Sud, l'un des archipels, disons-le, les plus isolés du monde. Au XIXe siècle, un certain nombre d'écrivains ont été fascinés par ces îles. Je pense à Robert Louis Stevenson, bien entendu, ou à l'auteur de Moby Dick, Herman Melville. C'est également aux Marquises que va venir s'installer pour passer les derniers mois de sa vie le peintre Paul Gauguin. Nous sommes entre septembre 1901 et mai 1903. Donc, le 16 septembre de la première année du 20e siècle, Paul Gauguin, qui est âgé de 53 ans, arrive aux îles Marquises. Il y aborde en voilier. Son voilier s'appelle la Croix du Sud. Le peintre était parti une semaine plus tôt de Papeete à Tahiti. On est donc à 1500 kilomètres de Tahiti. Les îles Marquises, une douzaine dont six seulement sont habitées, raconte Laure Dominique Agniel dans son ouvrage sur Gauguin aux Marquises, ces îles sont nées de l'océan. Volcan jaillit des profondeurs du magma, ici pas de lagon, pas de récif protecteur, la montagne, massive, brute, sombre. Sous ces latitudes, le Pacifique règne en maître, explose en gerbes d'écume sur les rochers et les plages de sable noir. L'île tremble sous ses coups de boutoir. Les Marquises ne sont pas des îles exotiques où l'on paraisse à l'ombre des cocotiers. Ici, l'océan sans entrave cogne, crie, casse et s'enfonce profondément dans les baies creusées par la sève dévorante de lave. Et c'est ce qui plaît tellement à Gauguin, qui arrive exactement dans l'île de Ivaoa. La population locale est venue au-devant de l'équipage sur la plage de sable noir. Des jeunes filles chantent pour accueillir la goélette, glissent une couronne de fleurs parfumées autour du cou de tous ceux qui débarquent. Les Marquisiens sont d'ailleurs étonnés de voir arriver Gauguin, cet homme blanc seul qui fait décharger des malles remplies de toiles et d'instruments de musique. Vous savez qu'il voyage avec sa harpe, sa mandoline, un harmonium, etc. Il a aussi toutes sortes de planches de bois avec lesquelles il a bien l'intention de bâtir sa future maison sur l'île. Paul Gauguin n'en est pas à son premier exil, c'est un baroudeur. Il est né sous le signe du voyage. Si je vous dis que par les femmes, je descends d'un Borgia d'Aragon, vice-roi du Pérou, écrivait-il, vous direz que ce n'est pas vrai et que je suis prétentieux. Bien pourtant, sa grand-mère maternelle, la célèbre Flora Tristan, la révolutionnaire, était la fille d'un colonel espagnol qui descendait justement d'une famille de noblesse aragonaise qui s'était effectivement installée au Pérou. Gauguin a d'ailleurs passé une partie de son enfance dans ce pays. À 17 ans, il est devenu matelot, il a navigué sur toutes les mers du globe pendant 6 ans, il s'est aussi rendu au Panama, en Martinique. En 1891, il a fini par partir pour Tahiti, il était complètement ruiné, il est resté 3 ans à Tahiti avant de revenir en France et de repartir en 1895 pour la Polynésie. Lorsqu'il arrive aux Marquises, donc en septembre 1901, ça fait 6 ans que Paul Paul n'a pas revu la France. Il est très malade du fait d'une fracture à la jambe après une bagarre quelques années plus tôt. Il se déplace avec une canne, il a la jambe couverte d'eczéma, il prend de la morphine pour calmer la douleur et pour ne rien arranger, il a toutes sortes de problèmes cardiaques. Il faut dire qu'il fume et qu'il boit beaucoup en plus de la drogue. L'artiste est un homme seul. Il n'a plus de contact avec sa famille. Il aurait bien aimé revenir en France, seulement il est ruiné. Le public n'achète pas ses œuvres. Moins de 20 ans plus tôt, il travaillait à la bourse. C'était un père de famille comblé qui pouvait s'acheter des tableaux d'impressionnistes. Et bien désormais, il est pauvre. Si pauvre qu'à Tahiti, il a été admis à l'hôpital dans la salle réservée aux indigents. Voilà un homme un peu perdu, disons-le, qui a même tenté de se suicider à l'arsenic avant de partir pour les Marquises. Et néanmoins, lorsqu'il arrive là, dans cet archipel nouveau, il est heureux. Il écrit à son ami, le peintre Monfred, « Avec des éléments tout à fait nouveaux et sauvages, je vais faire de belles choses. Mes toiles de Bretagne sont devenues de l'eau de rose à cause de Tahiti. Tahiti deviendra de l'eau de Cologne à cause des Marquises. » Oui, l'âpreté même de ces îles Marquises va emporter littéralement Gauguin. Il faut dire que ces îles, à l'époque, n'ont pas très bonne réputation en France et dans les milieux coloniaux. C'est peut-être ce qui va les rendre encore plus chers à Paul Gauguin.
Il pleut sur l'île des Varois, le vent sur les longs arbres verts jette des sables d'ocre mouillés. Il pleut sur un ciel de corail, comme une pluie venue du nord, qui délave les ocres rouges et les bleus violets de Gauguin. Il pleut. Les Marquises sont devenues grises. Le zéphyr est un vent du nord ce matin-là. Sur l'île qui sommeille encore, il a dû s'étonner qu'aucun, quand ses femmes aux yeux de velours ont pleuré les larmes de pluie qui venaient de la mer du Nord. Il a dû s'étonner qu'aucun, et toi, comme un grand danseur fatigué, avec ton regard de l'enfance. Et toi, bonjour monsieur Gauguin, faites-moi place. Je suis un voyageur lointain, j'arrive des brumes du nord et je viens dormir au sommeil. Faites-moi place. Tu sais, ce n'est pas que tu sois parti qui m'importe. D'ailleurs, pour moi, tu n'es Tu sais, ce n'est pas que tu ne chantes plus qui m'importe. D'ailleurs, pour moi tu chantes encore. Mais pensez qu'un jour, le vent que tu aimais te devenait contre elle. Pensez que plus jamais, tu ne naviguerais ni le ciel ni la mer. Plus jamais en avril, toucher lui la blanche. Plus jamais voir le ciel au-dessus du canal.
Un extrait de la chanson Gauguin, lettre à Jacques Brel. Nous écoutions Barbara. Nous serons de retour aux Marquises pour vivre avec vous, Franck Ferrand, l'arrivée du peintre Paul Gauguin. Bel après-midi sur Europe 1.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de la Polynésie française, cet après-midi sur Europe 1, Franck Ferrand, vous nous racontez l'arrivée de Paul Gauguin aux Marquises.
À peine Gauguin a-t-il débarqué aux Marquises qu'il aborde le village d'Atuona. Atuona, c'est à 300 mètres d'une plage. Il n'y a pas grand-chose, des habitations. Il y a quand même une gendarmerie, des lieux de culte et d'enseignement, un temple de la mission protestante, une église, deux congrégations, une école de filles et de garçons. Gauguin cherche quant à lui un endroit pour s'installer. Alors il va négocier avec un évêque dont la mission possède la plupart des terrains intéressants. Il s'appelle Monseigneur Martin. Monseigneur Martin lui vend un terrain d'un demi-hectare pour 700 francs de l'époque. Et c'est là que le peintre va faire construire une petite maison de bois et de feuillage. Maison surpilotée, comme il convient dans la région. Alors il est aidé bien sûr par les habitants du village. Et en échange, il leur donne ce qu'il a, du rhum, du thé, des gâteaux. Serge Georges, l'un de ses biographes, écrit « Au rez-de-chaussée, la cuisine, la salle à manger et un coin réservé à la sculpture et à la menuiserie. À l'étage, l'atelier et la chambre à coucher. Le toit est en feuilles de cocotier, les murs en treillis de bambou. De la fenêtre de son atelier, Gauguin peut retirer directement du puits à l'aide d'une sorte de canne à pêche, une bouteille d'absinthe et une gargoulette, c'est-à-dire un récipient lorsqu'il a soif. » Il décore de sculpture le jardin où se trouve son hamac pour la sieste à l'ombre et il orne l'intérieur de panneaux de bois sculptés et polychromés sur lesquels il évoque tous ses fantasmes érotiques féminins. Nous sommes dans une sorte d'absolu gauguinesque, si vous me passez cette expression. Cette case est ouverte, vous l'aurez compris, sur un paysage luxuriant, sur une végétation incroyable, arbres à pins, cocotiers, bananiers, un flamboyant aux fleurs roses absolument extraordinaire. Et puis tout près de la maison, une petite épicerie tenue par un Américain. Gauguin, dans cette maison de rêve, en tout cas pour lui, va dessiner, sculpter, peindre des paysages, des nus, témoignages de la vie des marquisiens. Son travail n'a rien à voir, somme toute, avec celui des années tahitiennes. Les sujets sont moins allégoriques et symboliques, les tableaux sont plus épurés, disons-le, plus simples, à l'image même des marquises, avec des couleurs plus pastel, par rapport aux couleurs très vives des œuvres antérieures, des pelouses rose fuchsia, des sables rose saumon, rose violacé. Les titres en langue maori ont disparu. Tout ça devient plus simple d'une certaine manière, surtout dans les attitudes, dans les yeux des personnages qui se teintent d'une forte mélancolie. À la demande du célèbre marchand Ambroise Vollard, qui lui verse quand même 300 francs tous les mois en échange de sa production, Gauguin réalise des natures mortes. Il représente des fruits, des mangues, des piments, des fleurs. « Je voudrais que vous m'envoyiez quelques tubercules et graines de fleurs, écrit-il à Montfred, dahlia simple, capucine, soleil varié, les fleurs qui supportent les pays chauds. Comme vous le savez, j'adore les fleurs. » Gauguin n'allait pas croire pourtant qu'il est totalement coupé du monde. Gauguin écrit beaucoup, il envoie des lettres à la France. Il a écrit un manuscrit, L'esprit moderne et le catholicisme, ainsi que des réflexions sur l'art qui s'appelle Racontard de Rapin. Quand il ne peint pas, quand il n'écrit pas, Gauguin réunit ses amis. Alors on boit de l'absinthe, du rhum. Les colons feront bientôt partie des habitués, bien sûr. Et le soir, Gauguin tire de sa réserve les fameux instruments dont je vous parlais. On le voit jouer de l'harmonium, de la harpe, de la mandoline. Les marquises sont un lieu où l'on peut contempler. C'est le lieu des contemplatifs. « Nous avons épuisé ce que la parole peut dire, écrit-il, et nous demeurons en silence. Je regarde les fleurs immobiles comme nous, j'écoute les grands oiseaux suspendus dans l'espace et je comprends la grande vérité. » Sans doute dans ces moments-là, sans doute dans ces suspensions d'un temps d'infini présent, Gauguin a-t-il touché à une forme d'absolu? Et puis, évidemment, comme à Tahiti, parce qu'il reste l'homme que l'on connaît, Gauguin va fréquenter des filles, de jeunes filles, très jeunes, mineures. Une devient sa maîtresse, elle a 14 ans. Gauguin a également une autre occupation, dénoncer, critiquer les missionnaires et l'administration coloniale. À l'origine, c'est certain, d'un certain nombre de mesures assez sévères prises contre les indigènes. Fiscalité que Gauguin juge injuste, éducation coloniale et religieuse totalement imposée, des amendes pour tout et n'importe quoi, y compris pour la consommation de boissons. Bref, les marquisiens, selon Gauguin, sont exploités. Ils doivent même déclarer leur propriété alors que la plupart ne sont pas au courant et n'ont pas de propriété au sens propre. Plus les mois passent, plus Gauguin passe son temps à railler les colons et les missionnaires qu'il accuse de toutes les corruptions et de vouloir surtout, ce qui à ses yeux est le plus grave, détruire les traditions marquisiennes. Il faisait déjà la même chose à Tahiti, vous savez, il était devenu un peu la bête noire de la société coloniale. Il est le seul à défendre les indigènes contre les blancs dans cette période. C'est très risqué, bien entendu. Gauguin y dépense toute l'énergie que lui laisse la maladie. We'll be right back.
Paul Gauguin installé aux Marquises est au cœur de l'histoire cet après-midi. Vous pouvez réagir à cette émission, poser vos questions via Twitter avec le hashtag ACDH, par mail europe1.fr, sur la page Facebook de l'émission. Laissez vos messages à Franck Ferrand et nous serons de retour dans un instant en Polynésie française sur Europe 1.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Installé cet après-midi au cœur du paysage paradisiaque des îles Marquises en Polynésie française. Avec vous, Franck Ferrand, nous retrouvons un Paul Gauguin, certes toujours révolté contre l'administration coloniale, mais malade.
Au début de 1903, cela fait près de 16 mois que Gauguin est aux Marquises. Son état de santé, là maintenant, n'est vraiment pas brillant. L'eczéma qui a couvert sa jambe malade est de plus en plus douloureux. Alors il prend de plus en plus de morphine et sa vue baisse. L'artiste est marqué par également un certain nombre d'événements, notamment un cyclone violent qui va dévaster l'archipel pendant 2 jours en janvier 1903. « À ma fenêtre, écrit Paul, tout s'obscurcit, les danses sont finies, les douces mélodies se sont éteintes. » Mais ce n'est pas le silence. En crescendo, le vent zigzague dans les branches. La grande danse commence. Gauguin ne peint presque plus, si ce n'est un autoportrait aux lunettes. Une toile tout à fait extraordinaire, d'ailleurs, d'une vérité absolument sidérante. L'artiste s'y est représenté les cheveux courts, les cheveux gris, le regard vide, le teint très terne à cette époque. Il est tellement mal et malade qu'il ne songe même plus à se faire rapatrier. D'ailleurs, son ami Monfred l'en dissuade. « Vous ne devez pas revenir en France, lui écrit-il. Vous jouissez de l'immunité des grands morts. Vous êtes passé dans l'histoire de l'art. Entre-temps, le public s'éduque. On fait inconsciemment ou volontairement marcher votre réputation. Vollard travaille à cela peu à peu. Il flaire déjà peut-être votre célébrité incontestée et universelle. Eh bien, laissez ce travail se produire en entier. Il n'en est qu'à son début. 1 an, 2 ans peut-être seront nécessaires encore pour qu'il porte quelques fruits. Alors attendez patiemment. Les autres travaillent pour vous. » L'artiste, pour autant, n'est pas serein. Il se révolte de plus en plus contre cette administration coloniale, contre les missionnaires. En peu de temps, il s'est mis à dos l'évêque, le gendarme, l'administrateur, le gouverneur, les inspecteurs des colonies. Il enchaîne procès sur procès, s'improvise l'avocat des indigènes. Il refuse de payer ses impôts et en représailles, on vient lui saisir son fusil ainsi que 2 statuettes. Et le coup de grâce va intervenir le 31 mars 1903, lorsque Paul Gauguin se voit condamné à une peine très lourde, 3 mois de prison, 500 francs d'amende pour diffamation contre la gendarmerie. Il n'a pas d'argent, il est désespéré, il est malade, son eczéma redouble, les douleurs sont insoutenables. Et dans la dernière lettre qu'il adresse à Monfred, il écrit « Toute mon ancienne énergie s'en va chaque jour ». Alors que ses yeux ne voient presque plus, raconte Laure Dominique Agniel, il a encore la force de terminer un tableau qui est une célébration de la luxuriance et de la lumière des Marquises. Une femme nue sur un cheval blanc, elle cambre les reins, redresse la poitrine dans une attitude de jouissance. Une autre porte un pareo blanc, les seins nus, elle caresse ses cheveux. Au premier plan, une troisième femme de dos entièrement habillée de blanc, évocation de l'évolution de la femme aux Marquises, de la nudité jusqu'aux longues robes imposées par les missionnaires. C'est en effet probablement le message. Le vendredi 8 mai 1903, au matin, le soleil brille après une averse. Tioca, un ami indigène, un voisin de Gauguin, court chercher le pasteur Vernier. « Tu sais, ça ne va pas chez le blanc, il est malade !» Gauguin a fait 2 syncopes les jours précédents. Le pasteur arrive auprès de l'artiste dans la maison du jouir, c'est ainsi que l'a baptisé Gauguin. Il essaie de soulager le peintre de son eczéma, il lui perce un abcès. Le peintre lui parle de ses amis d'autrefois, de son art, il semble aller un petit peu mieux. Il est 9h du matin lorsque repart le pasteur et Gauguin se retrouve seul chez lui. 2 heures plus tard, Tioca revient auprès de lui, auprès de Coquet, hein, comme l'appellent les habitants locaux, c'est le nom qu'on a donné à Paul Gauguin. Tioca appelle, aucune réponse, il monte les 12 marches qui mènent au premier étage, à la chambre de l'artiste, et là, il trouve Gauguin étendu, une jambe hors du lit, il vient de mourir. Tioca envoie chercher le pasteur, il mord le crâne de Gauguin pour vérifier qu'il est bien mort, c'est ainsi qu'on fait aux Marquises. « Il n'y a plus d'homme, dit-il, nous sommes perdus. » Gauguin allait avoir 55 ans et comme il le pressentait avant d'arriver aux Marquises, l'archipel aura été sa dernière destination. Paul Gauguin sera enterré le lendemain au cimetière catholique d'Atouona. Il n'y a pas grand monde à ses obsèques, seulement deux Marquisiens sont venus. Et voici ce que Monseigneur Martin, l'évêque qui avait trouvé un terrain pour le peintre et que Gauguin n'arrêtait pas de critiquer, voilà ce qu'écrit Martin dans son journal. Il n'y a eu de bien saillant ici que la mort subite d'un triste personnage nommé Gauguin, artiste de renom, ennemi de Dieu et de tout ce qui est honnête, pauvre peintre, pauvre littérateur, pauvre chrétien, la corruption la plus effrontée, l'impiété la plus affichée, socialiste radical. Je veux croire que Gauguin lui-même aurait beaucoup apprécié cette étrange homélie. Bonjour Stéphane Martin.
Bonjour Franck Ferrand.
Nous venons de vivre les dernières années d'un marquisien d'adoption. Avec vous, nous allons voir ce qu'il en est des marquisiens d'origine.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
La pluie est traversière, elle bat de grain en grain. Quelques vieux chevaux blancs qui fredonnent Gauguin. Et par manque de brise, le temps s'immobilise aux Marquises. Du soir montent des feux et des points de silence qui vont s'élargissant et la lune s'avance. Et la mer se déchire, infiniment brisée par des rochers qui prirent des prénoms affolés. Et puis, plus loin des chiens, des chants de repentance, et quelques pas de deux, et quelques pas de danse. Et la nuit est soumise et l'Alysée se brise aux Marquises.
Il repose aux Marquises. Jacques Brel sur Europe 1 chante tout son amour à l'archipel isolé du Pacifique Sud, les Marquises. C'est également le nom de son 13e et dernier album paru en novembre 1977. Les Marquises et le combat de Paul Gauguin contre l'administration coloniale sont au cœur de l'histoire. Vous recevez Franck Ferrand, Stéphane Martin, le président du musée du Quai Branly qui expose jusqu'au 24 juillet Mataota, art et société des îles Marquises.
Alors Stéphane Martin, le jugement de Monseigneur Martin, justement, de cet évêque est extrêmement dur à l'encontre de Gauguin. Peut-être tout simplement parce que Gauguin n'acceptait pas la colonisation de ces îles du Pacifique.
Alors sans doute parce que Gauguin n'acceptait pas la colonisation, aussi parce que Gauguin menait un mode de vie aux Marquises qui ne devait pas être tout à fait celui que l'évêque recommandait, et lui-même d'ailleurs avait un jugement sévère sur beaucoup de choses aux Marquises, non seulement sur l'administration coloniale, mais sur la façon dont la France avait laissé tomber littéralement les Marquises, sur l'Église. Donc on ne peut pas dire que c'était un habitant très pacifique
ni très
de l'archipel,
heureux.
Ni très heureux.
Et c'est pourtant un archipel d'une splendeur quasiment incomparable. Il faut le redire pour les auditeurs qui nous rejoindraient en cours.
Hein, c'est un des endroits les plus beaux au monde. Moi, je pense souvent, vous savez, au décor du premier King Kong, de l'île de King Kong, cette espèce de grand piton dans l'île de Wapo. C'est un endroit absolument fabuleux.
Votre exposition explique ce qu'il en est des Marquises depuis le site, évidemment, avec tout l'univers géographique, mais en parlant bien entendu de la culture locale. C'est l'intérêt de cette exposition et c'est la mission de votre musée, bien entendu. Alors, si vous voulez, revenons peut-être aux origines même, à la légende de la création des Marquises, si l'on en croit les habitants.
Alors effectivement, la légende de création des marquises est une histoire qu'on retrouve d'ailleurs dans plusieurs parties du Pacifique, c'est-à-dire celle de deux frères et deux sœurs ou de deux jumeaux qui font sortir en quelque sorte l'île de la Terre. D'un point de vue peut-être plus réaliste, les marquises sont des îles récentes, sont des îles jeunes.
C'est un archipel qui, dans la légende en tout cas, est un peu la maison des dieux.
Elle se constitue comme une maison, d'abord le pilier, voilà. Ensuite le socle.
Enfin une maison au sens traditionnel et local, bien sûr.
Vous savez ce qui est très frappant dans les cultures polynésiennes, bien qu'elles soient toutes nées d'une migration et qu'en fait elles soient toutes cousines, c'est qu'elles se voient beaucoup comme le centre, comme le nombril. Le nombril est très important en Polynésie, comme une sorte de centre culturel, voire le centre complet de l'histoire de l'humanité. Donc la légende de création des marquises n'échappe pas à cette tradition.
Et là, l'exposition met l'accent sur cette dimension de transmission, en fait, hein, une dimension généalogique, générationnelle. Il y a en quelque sorte une sorte de vous parliez de nombril, d'ombilique en quelque sorte. Hein,
Il faut avoir en tête, pour nous qui vivons en Europe, que l'histoire des marquises est une histoire courte, comme là aussi presque toutes celles des archipels de Polynésie. La migration polynésienne est arrivée assez tard. On pense que les îles marquises ont été effectivement peuplées en gros autour du début de l'ère chrétienne. Donc c'est une histoire brève, et donc cinquantaine de générations. Et donc sur une cinquantaine de générations, on peut se transmettre une mémoire et on peut se dire des choses. Donc c'est une société...
C'est une mémoire orale pour l'essentiel.
Oui, l'écriture au sens où nous l'entendons n'existe pas. Il existe des pétroglyphes qui retracent un certain nombre vraisemblablement de symboles, mais il n'y a pas d'écriture au sens permettant d'enregistrer des textes. Mais il y a une tradition orale très forte, un rôle de la récitation. Et d'ailleurs dans l'exposition, on montre un outil tout à fait extraordinaire qui ressemble vu de loin à un flotteur de pêche à la ligne, qui est en fait une sorte de compteur. C'est un objet qui, avec toute une série de fils avec des nœuds attachés, ça rappelle un peu les quipous des Andins, qui permettait aux vieillards et aux savants de retrouver la mémoire et de raconter les généalogies des familles.
C'est un aide-mémoire d'une certaine manière.
Voilà, c'est un aide-mémoire.
Généalogique.
Exactement.
Alors, vous êtes allé, vous, un certain nombre de fois aux marquises, il faut le dire. Vous connaissez
oui,
bien les lieux.
J'y ai fait une partie de mon service militaire et depuis, donc tout ça remonte à une quarantaine d'années, j'ai dû y aller une douzaine de fois à peu près.
Oui. Est-ce que lorsqu'on arrive actuellement aux marquises, on est à peu près en présence du même type de culture que celle qu'a pu découvrir notre Gauguin de tout à l'heure?
Peut-être pas tout à fait. Les habitants ont 12 chaînes de télévision et chacun un frigidaire.
Ah là, vous brisez nos rêves.
Mais en même temps, il faut imaginer qu'aujourd'hui vivent aux marquises à peu près 7000 personnes. Donc d'ailleurs, quand on compare ce qu'est l'image de la marque, en quelque sorte marquise, le potentiel de rêve que le nom véhicule et la petitesse de la population, il reste encore effectivement un grand espace pour le rêve, pour la promenade. Ce sont des îles qui sont extraordinairement bien entretenues. Les marquisiens sont des
gens... Elles sont incroyablement isolées, d'abord, il faut le dire.
Elles sont très loin de tout et relativement aussi loin, pour le groupe du Sud, les unes des autres. Donc on n'y va pas facilement. Et pour faire court, tout y est très beau. La plupart du temps, les fils électriques sont enterrés, les maisons sont très propres. Donc c'est vraiment un endroit absolument délicieux.
Oui, c'est une sorte de paradis terrestre en quelque sorte, avec néanmoins son histoire et ses violences, bien entendu. Quel est le rapport de la population locale à ces dieux, si je puis dire, à ces puissances tutélaires?
Alors, effectivement, l'histoire des marquises est une histoire sombre et les marquisiens ont vécu une période, en particulier au 19e, au début du 20e siècle, extrêmement difficile puisque, en gros, la France acquiert les marquises à peu près en même temps que la Polynésie, Tahiti, et à partir du moment où on a Tahiti, on se désintéresse des marquises. Et donc, on laisse les marquises s'abandonner aux violences et aux armes qu'ont introduit les Européens. Aujourd'hui, il faut savoir que les marquises sont catholiques à 100%. Il y a quelques protestants, très peu, à la différence par exemple de Tahiti, où les protestants sont majoritaires. Et le rapport au Dieu est d'abord le Dieu de l'Église catholique.
Oui. Mais néanmoins, subsiste bien quelques survivances des dieux anciens.
Il subsiste en tout cas une très forte identité nationale et locale. À la différence là aussi de la Polynésie, les marquisiens n'ont jamais perdu leur langue. Et donc, aux marquises, on se parle en marquisien, on communique en marquisien, on élève ses enfants en marquisien, dans les traditions, les coutumes, la forte autorité familiale, le respect aussi d'un certain nombre de rituels alimentaires. Et puis, depuis quelques années, après avoir été finalement tahitianisés, en quelque sorte, les marquisiens ont reconstruit leur propre identité à travers un des phénomènes, évidemment, qu'on connaît le mieux en Occident, c'est le tatouage. Mais la création, on aura peut-être l'occasion d'en parler, de ces festivals culturels qui jouent aujourd'hui un grand rôle. Et à l'époque de Gauguin, par exemple, être marquisien, c'était beaucoup moins chic que d'être tahitien. Tahitien, ça voulait, on pensait les belles vaïnées, les beaux tahitiens, alors que les marquisiens étaient considérés comme des canaques, comme des gens à la peau sombre. Aujourd'hui,
plus sauvage au sens de l'époque.
Beaucoup plus sauvage. Hein, oui. D'ailleurs, l'iconographie les montre toujours comme des gens beaucoup plus rudes. Aujourd'hui, être marquisien, c'est un plus.
C'est tout l'inverse, oui.
Et c'est très flatteur, c'est très revendiqué.
L'exposition du musée du Quai Branly s'appelle Mata Oata, ce qui veut dire le visage clair ou le regard pur, c'est ça?
Enfin, voilà, ça veut dire l'œil vivant du visage, c'est ça, littéralement.
Oui. Et cette exposition s'attache bien sûr à l'art, à la société dans le sens le plus traditionnel. Alors, dans un instant, nous allons revoir avec vous comment on vit aux marquises ou comment on y a toujours vécu, quelles sont les mœurs, quelles sont les habitudes. Nous allons essayer de nous plonger dans la vie des marquisiens.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Les îles Marquises sont au cœur de l'histoire. Vous recevez Franck Ferrand, le président du musée du Quai Branly, Stéphane Martin, le musée du Quai Branly qui expose jusqu'au 24 juillet Mata Oata, art et société des îles Marquises.
Votre musée, il faut le dire, je n'ai pas pris le temps de le faire tout à l'heure, Stéphane Martin, votre musée fête en ce moment ses 10 ans et rend hommage au fondateur, c'est-à-dire à Jacques Chirac.
Oui, absolument. Le musée a ouvert en juin 2006 et donc il nous a paru logique de parler de celui qui est derrière ce projet, parce que sans Jacques Chirac, il n'y aurait pas eu de Quai Branly. C'est vraiment une idée qui est sortie de sa tête et non pas des cartons de l'administration.
L'exposition s'appelle Jacques Chirac ou le dialogue des cultures. Qu'est-ce qu'on peut y voir dans cette exposition?
En fait, c'est une sorte de parcours de l'histoire. C'est une exposition qui vous plairait beaucoup, Franck Ferrand, parce que c'est d'abord une exposition d'histoire.
Mais je vais aller la voir.
Qui raconte l'histoire à la fois politique, culturelle, du monde, entre grosso modo la fin de la Deuxième Guerre mondiale et l'époque actuelle, et la manière dont Jacques Chirac a réagi et s'est construit en quelque sorte par rapport à un certain nombre de grands phénomènes historiques, dans certains cas aussi culturels, et d'où, comment il a tiré de tout ça une vision positive de la diversité du monde. C'est-à-dire dans une époque où la vision politique dominante était plutôt l'idée que le monde devait se rassembler, s'unifier, s'homogénéiser, lui a toujours été persuadé que la diversité était la clé de l'équilibre.
Oui, une diversité qui permet de tenir compte d'autre chose que de la culture et du modèle occidental, parce que c'est ça la grande question finalement aujourd'hui. Est-ce que tout s'aligne sur ce modèle occidental,
hein? Absolument, c'est ça l'idée. On voit bien aujourd'hui que tout, loin de là, ne s'aligne pas sur le modèle occidental, et autant le savoir, autant le connaître, autant essayer de comprendre comment l'autre fonctionne.
Alors vous nous parliez, revenons à notre exposition Mata Oata, nous dites ça veut dire le regard clair du visage, en gros, hein, c'est ça l'idée,
oui.
C'est la traduction d'une langue locale qu'on maîtrise parfaitement?
Oui, bien sûr. Alors les langues que l'on parle dans le groupe polynésien, c'est-à-dire par exemple au Samoa, au Tonga, à Tahiti, sont des langues d'une même famille qui, grosso modo, ont leur origine dans un emplacement qui est à peu près l'équivalent du nord de la Thaïlande aujourd'hui. La migration polynésienne a commencé à partir de Taïwan et ensuite tous ces peuples se sont répandus dans le Pacifique. Donc les Marquisiens, eux, pour leur part, leurs cousins les plus proches, ce sont les Tongiens, les Samoans, et par exemple, ils se comprennent, bien qu'ils soient séparés de plusieurs milliers de kilomètres d'océan. Il y a des différences de labial, par exemple, mais ils se comprennent et ils parlent cette langue au quotidien.
Où sont les grands spécialistes de cette culture en Europe? Est-ce que ce sont les Français? Est-ce que ce sont les Britanniques qui...
Je dirais que sur les marquises, ce sont les Français et les Allemands qui sont sans doute les spécialistes, encore que la commissaire de l'exposition, Carole Ivory, est américaine, elle travaille à l'université de Washington. C'est d'ailleurs ce qui fait, je pense, l'originalité de cette exposition, c'est qu'elle est conçue par une historienne. Ce type de population est en général capté par les anthropologues, et le discours évidemment d'un historien n'est pas tout à fait le même que celui d'un anthropologue.
Vous nous parliez tout à l'heure des festivals, des cérémonies publiques, alors de quoi s'agit-il exactement?
Eh bien, d'abord, la société marquisienne était une société très hiérarchisée, dans lesquelles les aristocrates organisaient en permanence des concours, des compétitions, le rôle de la force, et en particulier de la force physique, était très, très valorisé.
Avec des rites initiatiques, etc., bien entendu.
Avec des rites initiatiques, c'était aussi une société, là, pour le coup, réellement cannibale, dans laquelle il y avait un certain nombre de rituels cannibales, beaucoup plus, par exemple, qu'à Tahiti. Tout ça, évidemment, a disparu à partir de l'arrivée des Européens, à partir de l'annexion en 1842. Et en même temps, l'identité, encore une fois, marquisienne, a été très niée pendant la première partie du XXe siècle par les gouverneurs qui étaient installés à Tahiti et qui voyaient tous les Polynésiens comme un même ensemble. À partir des années 60-70, d'abord politiquement, les Marquises ont toujours eu une posture relativement séparée de celle de la Polynésie française. Par exemple, à l'époque où on parlait d'indépendance de la Polynésie, les Marquises étaient très loyalistes, comme on dirait en Grande-Bretagne. Encore une fois, sont catholiques. Et il s'est construit une sorte de mouvement animé par des personnalités comme le maire de Nuku'iwa, Joseph Kemitete, par un certain nombre de notables marquisiens qui ont voulu retrouver cette identité marquisienne et arrêter de jouer de la musique avec des ukulélés en paréo, mais retrouver les chants et les danses traditionnelles beaucoup plus profonds.
Le cannibalisme fait partie des fantasmes occidentaux développés sur cette région, bien entendu, mais il est authentique. Vous présentez dans l'exposition des statues anthropomorphes qui sont créées en os humain, les ivipos, c'est ça
les... Oui, l'ivipo, c'est un drôle d'objet. Ça rappelle exactement, vous savez, ces petits trucs kawaii que les jeunes japonaises accrochent au bout de leur téléphone. Sauf que c'est un os humain.
Oui, c'est, ça, voilà.
C'est une sorte de
petite nuance.
De petites perles, en quelque sorte, ou de grosses perles, qui pouvaient orner toute une série d'objets, aussi bien des trompes que des bâtons. Ce qui est très frappant dans les objets marquisiens, c'est d'abord la présence de l'os et aussi la présence du cheveu. Le cheveu humain et la barbe des vieillards sont des éléments de mana, de pouvoir. Et donc on retrouve, vous le voyez à plusieurs endroits dans l'exposition, énormément d'objets qui font appel aux touffes de cheveux humains.
Il n'y a pas de modèle vivant dans l'exposition, mais c'est presque regrettable parce que l'art suprême de cette région, c'est le tatouage, bien entendu.
Alors l'exposition se termine par un extraordinaire film qui est projeté sur une dizaine d'écrans à la fois, qui a été réalisé pendant le dernier de ces festivals des Marquises, où on voit de très très près des troupes de danse, et effectivement, tout le monde est tatoué, huilé. Il y a même une dimension olfactive, par exemple, les habitantes de Fatouiva s'enduisent d'un mélange de plantes, de poudre, etc., qui sent très fort et très bon, et qui fait partie, effectivement, du rituel.
Je garantis le rêve aux visiteurs de votre exposition, comme d'une manière plus générale à tous ceux qui viennent se promener au musée du Quai Branly, on peut dire ça, Stéphane Martin.
C'est l'idée, c'est de faire rêver, c'est aussi de faire comprendre.
Oui, on entendait tout à l'heure Jacques Brel, nous avons parlé bien sûr de Gauguin, une section transversale parce qu'il y a des espèces de focus de temps en temps dans l'exposition est consacrée aux explorateurs, il ne faut pas les oublier, ceux qui ont adopté les Marquises.
Alors le premier c'est Mendania qui veut travailler pour le vice-roi du Pérou et qui a découvert une première fois les Marquises. Et puis ensuite, ce qui a été extraordinaire dans l'histoire des Marquises, c'est qu'elles ont été découvertes exactement en même temps par un Anglais et un Américain qui ont découvert le même groupe au même moment. Et donc, les Marquises auraient pu être américaines.
Matawata, art et société des îles Marquises, c'est donc au musée du Quai Branly jusque vers la fin du mois de juillet, jusqu'au 24 juillet prochain. C'est pas très long, il faut pas perdre de temps. Et puis, vous avez un peu plus de temps pour visiter l'exposition Jacques Chirac ou le Dialogue des Cultures jusqu'au 9 octobre. Que nous prépare ensuite le musée du Quai Branly, Stéphane Martin ?
Alors l'année prochaine, on aura deux expositions tout à fait spectaculaires, l'une sur Picasso primitif et l'autre sur le Gabon. Et d'ici là, la présentation de la collection de Marc de la Charrière, qui est un grand, grand collectionneur d'art primitif et dont la collection est certainement une des plus importantes en Europe aujourd'hui.
On peut dire, et il faut saluer le travail de toutes vos équipes, j'en profite puisque vous venez nous rendre visite aujourd'hui, il faut dire à quel point votre musée est un des pôles culturels très actifs de la capitale depuis maintenant des années. C'est un endroit, il se passe toujours quelque chose comme en d'autres endroits bien connus. Merci beaucoup Stéphane Martin, je rappelle que vous êtes le président du musée du Quai Branly. Voilà, bien nous allons passer la parole à l'Euro de football et je vous dis à demain, non plutôt à lundi chez Rambline et puis demain pour un grand portrait d'au cœur de l'histoire.
Oui, à demain Franck. Alors en Polynésie française, vous le savez, on lance le javelot, il y a le traditionnel lever de pierre aussi. En Europe en ce moment, c'est du football et Europe 1 Football Club avec Thomas Touroud. Bonjour Thomas.